Alors, dans cette autre vision de la mobilité qu'est la mobilité équestre, je crois que l'on peut quand même souligner l'importance des questions qu'elle rejoint en quelque sorte. La première, c'est malgré tout, on va y retrouver autrement le rapport de l'histoire des hommes et des animaux. Et l'histoire de la culture équestre est dans les 3000 ou 4000 années de la domestication des équidés par rapport à l'homme, un long temps sur lequel, évidemment, je ne vais pas m'arrêter longtemps, mais où les relations entre l'homme et l'animal ont été complètement transformées par la découverte, par cette découverte assez mal éclairée finalement, mais qui est un point de départ fondamental, qui est l'attelage du cheval à un char, et qui a été le point de départ de toutes les inflexions militaires des invasions, puis de toutes les transformations de la guerre ancienne, avant évidemment, bien sûr, l'apparition des cavaleries modernes. Alors, jusqu'à la Belle Époque, on est entré dans cette histoire de la domestication où attelage et véhicules connaissent des avancées parallèles et où la généralisation accrue d'une série de découvertes qui ont commencé au Moyen-Âge, l'essor de multiples formes d'utilisation pour le transport des choses et des hommes, la transformation même des chevaux par toute cette transformation a constitué en quelque sorte notre paysage dans lequel, si nous n'avons plus un contact direct avec les animaux, nous avons une certaine habitude de leur représentation et des façons dont elles sont utilisées. On a parlé tout à l'heure de la vitesse, et bien c'est la transformation commencée il y a si longtemps, c'est l'apogée de la vitesse animale. Et cette vitesse animale, ce n'est pas du tout la même chose que la vitesse mécanique du point de vue de son contrôle et du point de vue de ses effets. En second lieu, la question, en quelque sorte, permet d'aborder, de retrouver le problème de la mobilité et des rôles de la circulation et des échanges, c'est-à-dire d'une histoire qui est, sans qu'il ait été besoin de le souligner de façon absolument excessive et de le rappeler comme tout le temps, c'est une histoire connectée. C'est une histoire qui, dans ces 3000 années d'existence, ou 4000 années, selon que vous attribuez un peu plus de longévité à certaines identifications ou pas, c'est une histoire qui est une histoire ouverte et qui a joué un rôle majeur dans le contact entre la civilisation occidentale et les autres civilisations. C'est pourquoi on doit rappeler en quelque sorte que le point de départ de ces analyses sur les cultures équestres, c'est quand même la séparation qui existe entre un monde qui a vécu pendant des millénaires et qui a rencontré l'Occident pendant des siècles, qui est le monde de la société cavalière, le monde de la civilisation des chevaux, où il n'y a pas les mêmes caractéristiques de rapport avec les chevaux que dans nos sociétés. C'est ce que les ethnologues ou les anthropologues, voire les sociologues, distinguent en opposant les sociétés cavalières aux sociétés à écuyer. Qu'est-ce qui fait la société cavalière? C'est quatre caractères principaux. Le premier, c'est que l'élevage des chevaux dans ces sociétés qui ont été caractéristiques des centres de diffusion des grandes invasions et des grands mouvements, tant vers l'Est, vers l'Asie, que vers l'Ouest, vers l'Europe, c'est d'abord un type d'élevage totalement extensif, avec comme caractéristique l'absence de subtilité, sa rusticité, sa rapidité, parce qu'il vise à une domination totale et rapide de l'animal par un travail après sa capture ou après sa mise en condition. Le deuxième caractère, c'est qu'il n'y a aucune séparation dans la présence, en quelque sorte, culturelle du cheval entre les différents usages, entre les différents milieux sociaux. Le cheval est à tout le monde, on apprend à monter à cheval très jeune, les femmes montent autant que les hommes, on mange le cheval, on boit le cheval, en tout cas le lait des juments. Le cheval est donc omniprésent dans la culture matérielle, dans la société, dans la religion, dans ses jeux, et ceci dès l'enfance jusqu'à la maturité. Donc c'est une culture où l'équitation n'a pas de limite, n'a pas de réserve. Et elle existe encore sous des formes qui tendent évidemment à disparaître dans certains pays de l'ancienne Union soviétique ou dans certains pays de l'Amérique du Sud principalement. Dans quelques endroits de l'Europe occidentale, des gens prétendent la reconstituer dans des univers qui leur paraissent favorables à ce type d'équitation. Troisième caractéristique, c'est que la civilisation des cavaliers a été entraînée par une évidence militaire qui est totalement opposée à ce qu'a été la conduite de la guerre dans les civilisations occidentales. La civilisation de harcèlement et de l'esquive des peuples cavaliers s'oppose totalement, comme l'a montré dans son grand travail sur l'art de la guerre Kegan, à la civilisation de la force, de la rupture brutale et de la recherche en quelque sorte de l'écrasement de l'adversaire, qui est la grande caractéristique depuis le siècle d'Alexandre le Grand et sans doute un peu avant de la technique militaire occidentale. Voilà donc trois caractères qui sont importants. Il en reste un, c'est que dans cette civilisation des cavaliers, la hiérarchie existe quand même, mais elle est liée à, en quelque sorte, l'application aux différents usages de l'usage des chevaux. Alors, face à ce modèle, il y a dans la société occidentale une rupture sur laquelle ni les historiens ni les anthropologues ne sont d'accord quant à la datation. Peut-être que ce n'est pas un problème fondamental que de savoir exactement à partir de quel moment il est possible de passer d'un modèle social à un autre, parce que ça se fait vraisemblablement de façon tout à fait répandue dans l'ensemble social et sans limite extrêmement précise. Nous sommes entrés, nous, vraisemblablement, après le premier millénaire, à partir principalement du XIIe et XIIIe siècle, dans ce qu'on appelle la société à écuyer. Et la société à écuyer, c'est désigné aussi par un certain nombre de caractères. Le premier, c'est que très tôt apparaissent dans cette société un partage entre les types d'élevage, qui sont les élevages à finalité aristocratique et militaire et les élevages à finalité utilitaire. Il n'y a jamais eu de coupure entre les deux mondes de l'élevage, mais il y a des finalités, des fonctionnalités en quelque sorte qui y sont prédominantes. En deuxième lieu, le système militaire occidental, avec sa cavalerie lourde et avec son utilisation massive du cheval militaire, a débouché sur la proposition de voir dans le cheval un symbole du pouvoir aristocratique, et au fur et à mesure du développement des pouvoirs d'État, le cheval est un trait moteur de la symbolique du pouvoir, de la représentation du pouvoir royal à travers l'esthétique, à travers la littérature, à travers tout ce que l'on peut en quelque sorte rechercher comme univers de représentation. En troisième lieu, l'équitation d'élite n'a pas été généralisée à l'ensemble des populations. c'est devenu un marqueur social extrêmement spécialisé et qui a pu traverser même les vicissitudes des ruptures politiques. Il n'y a pas, en quelque sorte, de ce point de vue-là, de transformation décisive dans l'instauration de la société démocratique européenne avec ce qui existait avant. C'est simplement que le pouvoir n'a pas les mêmes références, mais les références au pouvoir à partir des représentations équestres se sont en quelque sorte adaptées. Alors dans ces deux univers, vous vous doutez que le rapport des chevaux avec les attelages ne sont pas essentiellement les mêmes et qu'il y a eu des différenciations entre les différents types d'utilisation. En ce qui concerne notre culture et notre culture occidentale, la selle et l'attelage n'ont jamais été complètement séparés. C'est même une des caractéristiques qu'il faut retrouver à travers la littérature équestre spécialisée, c'est que pour les cavaliers les plus, en quelque sorte, soucieux d'arriver à une perfection du dressage qui nous échappe à tout un chacun, en tout cas à moi, il n'y a pas à séparer cela de ce que l'on fait pour un cheval de selle et pour un cheval, en quelque sorte, de manège. Le cheval de travail a droit à sa formation comme il a droit quand il est un cheval de luxe et quand il a, en quelque sorte, à répondre à des finalités sociales beaucoup plus précises. Donc la diversification s'est accrue dans le système technique et il y a une histoire très spécifique qui reste à écrire en dépit de ces quelques pages, des quelques pages que j'ai pu constituer. On peut en quelque sorte faire beaucoup mieux vraisemblablement, et c'est sur ce point de vue que je voudrais attirer votre attention par les remarques qui suivront dans l'exposé. Mais ce qui me paraît important au départ, c'est que nous sommes, et par comparaison à ce que nous avons entendu précédemment, dans une histoire de l'énergie, et dans une histoire de l'énergie animale qui n'a jamais été écrite. C'est très simple. En 1900, dans la ville de New York, les confrères américains ont calculé que plus de 60% de l'énergie était encore produite par l'énergie animale. Donc on est quand même dans une continuité de ce point de vue-là qui est absolument formidable. Et le contrôle de cette énergie animale, le contrôle de l'animal moteur par les cavaliers ou par les conducteurs, ce que l'on appelait autrefois l'art du menage, ça, c'est une expression qu'on rencontre pas très souvent actuellement, sont évidemment à retrouver dans cette perspective fondamentale. Les questions qui sont ainsi évoquées dans le cadre de ce que j'appelle la culture équestre, parce que si je voulais parler de civilisation du cheval, il faudrait que je fasse beaucoup plus large. Donc je parle plutôt de culture équestre parce que cela me sert en quelque sorte à me démarquer par ce point de vue trop ambitieux peut-être, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une interrogation qui est posée par le problème des sources. Nous avons à notre disposition, pour l'historien, des sources absolument multiples, qui peuvent être utilisées de multiples façons, mais le problème, par exemple, dans le rapport des chevaux et des attelages, c'est que votre point de vue va varier de façon absolument étonnante selon que vous aboutissez à privilégier la compréhension par les véhicules ou si vous interrogez en quelque sorte les rapports socio-économiques qu'entraînent l'association des véhicules avec des chevaux spécifiques et tout un univers qui nous échappe particulièrement les représentations imagées des carrosses, voire les quelques carrosses qui sont conservées, posent des problèmes absolument infinis qui ne sont pas si faciles à comprendre et sur lesquels, évidemment, je ne pourrais guère insister. Dans la perspective, en quelque sorte, d'une histoire muséale et d'une histoire reconstituant les différents aspects de la technique des attelages et des liens et de tout ce qui les attache à leur utilisation avec les chevaux, je vous renvoie quand même à un ouvrage absolument fondamental et qui a une valeur pour tous les pays européens, c'est la publication de Jean-Louis Libourel, Voiture hippomobile, vocabulaire typologique et technique, qui a été publié par les Monuments nationaux en 2005, et c'est un ouvrage tout à fait important parce que il marque premièrement la nécessité de réfléchir au lien qui unit la conservation indispensable des véhicules et la compréhension qui accompagne cette, en quelque sorte, conservation. Il y a un rôle qui est fondamental pour les historiens de l'art, c'est que le véhicule hippomobile a été l'un des moyens d'expression des artistes et que tout un monde de décorateurs, tout un monde d'artisans décorateurs se sont pendant des siècles, pendant au moins trois siècles, engagé dans cette technique et dans ces rapports. Et dans une seconde perspective, l'approche technique mérite également une contribution, un intérêt, et malheureusement, le seul grand ouvrage qui ait été consacré à ces aspects particuliers, c'est-à-dire qu'est-ce qui réunit l'un et l'autre dans l'association, n'a jamais été publié. Il s'agit d'une thèse faite par une japonaise à l'école vétérinaire d'Asfort, tu vois, ce qu'on peut trouver comme chose étrange dans le développement des bibliographies, qui s'intitule « Contribution à l'étude de l'évolution de l'attache du cheval à travers les âges ». Ça date de 2002, ça n'a jamais été édité, c'est assez gros et important. On pourrait peut-être faire un mouvement pour en quelque sorte obtenir la diffusion de cette publication. Alors, avec ces deux références, l'un du côté des arts hippomobiles de la fabrication, l'autre du côté du rapport entre les chevaux et les attelages, nous avons les moyens, en quelque sorte, en dépit de toutes les difficultés auxquelles je pourrais répondre si vous le souhaitez tout à l'heure, de poser trois questions principales. La première question, c'est tout ce qui rappelle, en quelque sorte, ce rapport technico-social. C'est les facteurs de son changement et, en quelque sorte, la contextualisation de cette relation du problème des chevaux et des attelages dans un univers de mobilité qui n'est pas le nôtre, dans un univers qui est très différent de ce que nous avons vu tout à l'heure et entendu présenter. La deuxième question, c'est comment fonctionne le système mis en place dans ses caractères techniques et pratiques usuelles. Et pour terminer, ça ne sera qu'un ensemble de suggestions, c'est tout ce qui resterait à faire pour mieux comprendre le fonctionnement de cette production, le rôle de ses acteurs et retrouver en quelque sorte l'univers technique dans une approche plus précise, dans une approche plus socio-technique. Alors sinon, on en revient aux espaces de contextualisation des rapports sociaux avec les usages, avec les chevaux et avec les attelages. Nous nous trouvons confrontés à trois domaines principaux entre le XVIe siècle et la fin du XIXe siècle. Le premier domaine, c'est celui de l'espace des campagnes. C'est à peu près pour l'Europe occidentale 90% de la relation qui est en cause. La relation entre chevaux, attelage et fonction unissant l'un et l'autre. Le deuxième, évidemment, bien sûr, vous tenez compte, vous avez présent à l'esprit l'évolution de l'urbanité, le mouvement de croissance urbaine, etc., qui modifie ce pourcentage, mais ça sera toujours en quelque sorte une sorte une énorme inégalité entre l'un et l'autre des espaces. Le deuxième espace, c'est l'espace urbain. L'espace urbain et son essor matériel a joué dans la différenciation des pratiques un rôle absolument fondamental. Et parce que la ville ne produit pas de chevaux, mais la ville en consomme. Et elle en consomme avec une rapidité qui est bien supérieure, compte tenu de la longévité des animaux, à ce que peut être la longévité agraire. Le troisième espace est évidemment, vous l'attendez, c'est ce qui relie le premier au second, c'est l'espace routier et les grandes transformations qui ont été à l'intérieur des transformations fondamentales des chevaux et des voitures, liées dans la dimension générale de l'Europe à cet espace routier et au problème de la circulation des voitures, des chevaux et des cavaliers. Alors, dans les attelages ruraux, on peut relever en quelque sorte deux modes de présence. Le premier mode de présence, c'est celui, en quelque sorte, qui est le plus caractéristique, c'est celui qui est le cheval à la campagne, les chevaux à la campagne, ils sont présents pour leur fonction utilitaire, ils sont présents pour quantité de gestes de culture, de l'agriculture, ils sont présents pour les transports, mais ils y sont présents en permanence. Ce ne sont pas des auxiliaires, ce sont des acteurs constants, permanents de la production et de la vie agricole. À travers ces différents types de présence sur lesquels je reviens dans un instant, évidemment vont se manifester des relations de pouvoir et des relations sociales spécifiques. Et en particulier, dans la période du XIXe siècle, les chevaux à la campagne auront peut-être un peu moins d'importance que dans la période précédente, mais leur signification symbolique et sociale n'en sera que plus accrue. Donc la question est à poser en ce sens. Le deuxième type de chevaux, ce sont les chevaux que les paysans peuvent accueillir temporairement. Ils les voient traverser les villages. Ce sont des chevaux utilitaires, mais ce sont aussi des chevaux spectacles que donnent à voir aux populations rurales, que donnent à voir les attelages, que donnent à voir les moyens de transport, le commerce et la relation avec les villes. Dans les deux types de relations, la proximité avec les chevaux n'est évidemment pas la même. Les relations, pourtant, impliquent des harmoniques par rapport à l'utilisation et par rapport à la connaissance qui sont un peu les mêmes. Le premier type de relation liée à la possession et à l'usage des chevaux et des voitures, c'est une connaissance que nous avons complètement perdue. C'est la connaissance sensible et familiale, tout un faisceau de rapports et de perceptions qui sont tout à fait révélateurs à la fois de la capacité utilitaire, de ce que l'on va attendre de l'animal, de la façon dont on va en quelque sorte les utiliser, mais aussi de la capacité distinctive des notables et des privilégiés. Dans ce domaine, c'est évidemment le travail et la réussite d'un rapport technique qui va qualifier le mieux le propriétaire. C'est par la réussite de cette spécialisation, le nombre de chevaux, le nombre d'attelages, que l'on voit en quelque sorte apparaître une hiérarchie interne aux gens de village, avec bien entendu des différenciations géographiques que j'évoquerai brièvement, et qui hiérarchise les personnels et qui hiérarchise les exploitations. La zone de grande culture céréalière qui traverse de la grande plaine britannique jusqu'à la grande plaine de l'Allemagne du Nord, le nord de la France et le sud des Pays-Bas et le sud de l'Allemagne, avant les autres grandes zones géographiques, est très caractéristique de cette relation-là. Si vous voulez en avoir un exemple scientifique, vous vous reportez à l'analyse des écuries faite par Jean-Marc Morisseau, qui n'était pas à ce moment-là dans ces lieux, mais qui était un modeste chercheur ingénieur du CNRS à ce moment-là, et qui a soutenu dans sa thèse, à l'incitation de la demande de ses directeurs, une analyse très précise de la composition des écuries. Si vous voulez une approche sympathique et éloquente, accessible et qui va vous faire comprendre les choses presque aussi bien, mais c'est très lié, c'est les mémoires du capitaine Coignet. Bien sûr, ici, tout le monde a lu le journal de ce grognard dont l'enfance est tout à fait intéressante. C'est un fils de la pauvre paysannerie du Morvan qui est recueilli par un aubergiste, passe dans cet aubergiste un des plus grands marchands de chevaux de la France de l'époque. Ce marchand de cheval est un très grand propriétaire en Brie, à côté de Paris, et il repère le jeune Coignet qui a à peu près 15 ans, même pas, et il considère qu'il a une relation assez particulière et bonne avec les chevaux. Il l'engage, il l'emmène avec lui, et vous avez dans ses mémoires, dans les premiers chapitres des mémoires du capitaine Coignet, toute une manière de comprendre qu'est-ce que c'est que le cheval dans ces grandes exploitations, comment il est spécialisé, comment on apprend à ses différentes utilisations, comment il y a un personnel aussi qui se spécialise dans les très grandes fermes briardes. Par exemple, l'élite de cette agriculture, ce sont les charretiers. Ce sont les charretiers qui conduisent à Paris les céréales et les fourrages et qui rapportent de Paris les engrais et les fumiers qui assurent le succès de cette région de grande culture. Alors vous voyez, il y a un très grand système technique qui allie les différentes fonctions, les labours, les transports, les voitures pour le personnel et les voitures pour les maîtres, et qui a en quelque sorte son lien direct avec le fait que le personnage qui gère sur cette exploitation est un très grand marchand de cheval. Il traverse la Révolution. Et au moment du directoire, on assiste, parce que c'est à ce moment-là que Coignet y exerce ses fonctions de manière qu'il a le mieux décrit, on assiste à qu'est-ce que c'est que le marché du cheval pour le ravitaillement de ces grandes fermes, où on va aller chercher, et aussi, comme c'est un marchand qui s'intéresse à toutes les catégories équestres, le patron du capitaine Coignet ravitaille les élites de la capitale. En plein directoire, le système reconstitue totalement ce qu'il était en 1789. Il n'y a aucune différence entre ce qui se passait entre les deux périodes. Alors, dans ce milieu, vous voyez derrière, enfin, le rôle d'une économie agricole européenne qui est en train de se lancer à partir des grandes productions céréalicoles, dans la très grande culture commercialisée. Vous voyez aussi se développer tous les transports avec une très forte densité dans ces genres. Et c'est un monde assez différent, mais qu'il faut évoquer, de ce qui se passe dans ce que j'appellerais les mondes de chevaux polyvalents. C'est-à-dire, partout ailleurs, vous avez des chevaux, ils sont en moindre densité, ils sont souvent concurrencés par les bœufs ou par les mulets ou par les ânes. C'est un des grands débats du XVIIIe siècle et encore du début du XIXe siècle d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est le plus rentable, du bœuf ou du cheval, dans le maniement d'une agriculture polyvalente et non pas dans le maniement d'une agriculture qui évolue vers la monoculture. Donc les historiens français ont eu un peu tendance, en quelque sorte, à négliger cette présence. Les grands historiens ruralistes français, dont on ne saurait assez louer, évidemment, le travail, mais de ce point de vue-là, ils sont restés assez silencieux sur, en quelque sorte, ce qui caractérise, dans la France et dans le reste de l'Europe, les trois zones principales d'utilisation du cheval, le rôle de la zone d'utilisation intense par le travail agricole, où tous les commerces et tous les transports sont déjà dépendants totalement du cheval, mais le cheval n'y est pas forcément produit. Il peut y être en partie produit, mais ce ne sont pas des zones d'élevage. Les zones d'élevage, on les cherche à l'intérieur ou en bordure de ces grandes zones de production spécialisée, dans l'ouest de la France, de la Bretagne au Boulonnais, du Boulonnais aux Ardennes, dans le sud des Pays-Bas, dans l'est et le sud-ouest de la Hollande et dans les zones post-montagneuses, si on peut dire, montagnardes de la grande plaine allemande. Donc ces zones d'élevage ont tout un attachement différent à la production et à l'utilisation du cheval. Il y reste en moins de temps que dans les zones de monoculture et de grande circulation, mais il y a cet attachement dont le modèle, en quelque sorte, le plus intéressant, le plus pittoresque, est celui de l'élevage breton. L'élevage breton qui a donné lieu à des bêtes qui, évidemment, n'existent pas dans les modèles qu'elles ont eus au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, voire au début du XIXe, et qui étaient caractérisées par une rapidité, une polyvalence possible des usages. On pouvait les utiliser à tout et une rusticité, une adaptabilité qui leur conférait une place particulière dans l'exploitation agricole. Alors, dans ces trois espaces, une partie de la hiérarchie sociale et des usages économiques, évidemment, repose sur l'opposition entre la capacité des agriculteurs en se laissant entraîner dans l'utilisation des attelages de plus en plus lourds, de plus en plus puissants, de plus en plus énergiques, en quelque sorte, dont le modèle va être au XIXe siècle pour la France le percheron, et dont le modèle était le Suffolk en Angleterre dès le XVIIIe siècle dans certaines régions de l'Angleterre moyenne. Le chemin de fer par rapport à cette géographie et par rapport à cette différence d'attitude a provoqué un débat philosophique de l'ordre de celui que nous avons entendu tout à l'heure. Une partie de la population intellectuelle a condamné le cheval avant de le voir disparaître. Mais une autre partie, qui était aux sources de la production, grands éleveurs de l'Ouest ou grands utilisateurs des compagnies de transport de chevaux, s'est posé la question de ce qui était l'adaptabilité, en quelque sorte, aux nouvelles fonctions portées par les techniques modernes, portées et demandées par les nouveaux moyens de mobilité, par les exigences de mobilité. Et finalement, ce sont eux qui ont eu raison. Le chemin de fer n'a pas tué et fait disparaître les chevaux en Europe et encore moins en France. En France, on est passé d'une population de à peu près 1 500 000 après la Révolution et les guerres de l'Empire, à une population de plus de 3 millions, un peu plus si vous redonnez à la France l'Alsace et la Lorraine, bien entendu, que nous regrettons encore d'avoir perdu en 1870. Donc le cheval a été l'un des instruments essentiels, en quelque sorte, de la mobilité entraînée par les nouveaux moyens de production, de circulation, et plus particulièrement le chemin de fer, bien entendu. Et cette situation n'a pas disparu avec l'automobile. Il s'en va au moment où je prononce au revoir. Ça n'a pas disparu avec l'automobile parce que la nécessité, l'automobile était plus coûteuse que le cheval, et la nécessité de relier les points d'arrivée du réseau des chemins de fer avec l'ensemble de la géographie rurale n'a pas disparu du jour au lendemain. Moi, j'ai connu en Provence la patache qui réunissait les hauts villages de Haute-Provence à la dernière ligne de chemin de fer qui arrivait, qui a été supprimée, qui arrivait par Carpentras, Buis-les-Baronnies, et c'était le point à partir duquel les patâches reprenaient les marchandises et les voyageurs jusqu'en 1950, jusqu'en 1945-1950. Donc, toute cette, c'est comme ça qu'on peut comprendre en quelque sorte la perfectibilité qui était attendue dans cet accroissement de la mobilité. Cette perfectibilité dans la technique des véhicules a été le fait des grands artisans urbains qui, à la fin du XVIIe siècle, ont fait un certain nombre d'applications techniques et de découvertes techniques fondamentales qui ont orienté toute la production des carrosses pour les personnes ou des voitures pour les choses, pour le transport des commerces, et parmi lesquels vous allez retenir le passage de l'essieu fixe à l'essieu mobile, le passage de l'avant-train fixe à l'avant-train mobile, et le passage des soupentes et des cordes qui entretenaient le lien des caisses des voitures ou des charrettes à une suspension beaucoup plus complexe à partir de la métallurgie et à partir des ressorts. Nous sommes ici dans un univers qui mériterait d'être mieux connu et mieux étudié, qui est l'univers de la transformation du bois. Un véhicule hippomobile, ce sont des dizaines de catégories de bois. Et ce sont des artisans, j'y reviendrai, qui se mobilisent pour, dans la chaîne de fabrication, construire et entretenir ces véhicules de plus en plus lourds qui sont liés à l'extension des communications. L'énergie animale est moins coûteuse que l'énergie de la vapeur. Le cheval et les attelages sont plus flexibles pour tous les terrains, ce qui explique en quelque sorte l'intérêt que peut encore pour une révolution biologique actuelle les questions que posent certains agriculteurs et que posent même certains transporteurs à une réutilisation des chevaux. Nous en arrivons alors à regarder d'un peu plus près l'espace urbain. L'espace urbain, c'est la concentration d'une demande. Et c'est la concentration d'autant plus forte de cette demande que cette demande est accrue de la fin du Moyen-Âge à la fin de l'époque contemporaine. Là encore, le lien est direct, et je ne vais pas le redévelopper, avec la demande de fiabilité des véhicules, avec la demande de l'accroissement des échanges, mais aussi avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, la demande de la vitesse. Le cheval, entre les villes, a été un instrument de la découverte de la capacité d'obtenir des vitesses régulières, j'y reviendrai, et en quelque sorte à la capacité de répondre aux multiples fonctions administratives, politiques, judiciaires, de transport, autant et peut-être plus pendant longtemps que les fonctions militaires. Ce qui a posé aux villes, évidemment, des problèmes tout à fait spécifiques que ne connaissaient pas les campagnes, qui sont les problèmes de la concentration d'un tel afflux de monde animal, de son énergie à contrôler, de ses vitesses à dominer et, bien entendu, de son entretien. La ville a donc été, dès la Renaissance, une sorte de laboratoire à la fois de la transformation des usages, mais aussi des moyens de recherche de rentabilité et d'efficacité qui correspondaient à ces nouveaux usages. La cité doit accueillir de plus en plus de chevaux. Il faut pour cela les loger, ce qui est un vrai problème et plus particulièrement un problème financier. Il faut trouver des financements publics, privés, de tous ordres, pour répondre à cette fonction d'accueil. Les chevaux s'entassent dans les villes et de plus en plus aux périphéries de la ville, comme on le voit lorsqu'on étudie le fonctionnement des auberges parisiennes à la fin du XVIIIe siècle. À l'intérieur de ces villes, le cheval entraîne de tels problèmes que la police est immédiatement mobilisée. Les premières ordonnances du type de contrôle du roulage en France et en Angleterre datent du XVIe siècle. À Paris, c'est sous François Ier que l'on a, en quelque sorte, mis en place un contrôle des véhicules et un contrôle de la circulation qui a été repris et étendu par la suite. Donc, dès la fin du XVIIe siècle, le cheval dans la ville devient un sujet, en quelque sorte, de manière de comprendre la maximisation de l'utilité, la maximisation des rendements animaux et tout ce qui peut, en quelque sorte, améliorer l'adaptation des chevaux à leur rôle, par le perfectionnement des techniques, toutes ces techniques qui avaient été mises au point à la fin du Moyen-Âge, pour accroître la durée de leur vie et pour accroître, en quelque sorte, leur adaptation à la fatigue. Autrement dit, ce sont les villes et les besoins d'accroissement des communications qui ont été à l'origine de l'amélioration des capacités des chevaux à s'adapter à la demande. Dans cette perspective, il y aurait évidemment à revenir sur les lieux d'étude. Ça n'a jamais été fait. Entre l'Académie des sciences, les écoles vétérinaires qui apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, c'est créer un milieu scientifique particulièrement opératif qui s'est intéressé à tous les paramètres, en quelque sorte, de la transformation nécessaire à cette adaptation dont je n'ai fait que décrire les grands traits. Il ne faudrait pas perdre de vue la liaison qui s'établit entre cette population savante, médecins transformés en hippiatres et en vétérinaires ou membres des académies, et les métiers. Et parmi ces métiers, il y en a un qui mériterait d'être repris dans son étude, c'est celui des maîtres de poste, de ceux qui ont géré les institutions postales qui étaient fixées dans les grandes capitales européennes et à Paris dès le XVIe, XVIIe siècle et qui irriguaient l'ensemble du réseau national. Ces maîtres de poste ont été des améliorateurs et des personnages qui ont exercé dans le domaine de la transformation des animaux et de leur usage un rôle particulièrement important. La deuxième catégorie, à l'invitation de laquelle j'appelle une étude, ce sont évidemment les maréchaux ferrants. Les maréchaux ferrants qui exercent un rôle extraordinaire dans les villages. Ils sont présents partout. Vous pouvez en trouver des traces, bien que ça ne soit pas un sujet qui ait été véritablement suivi d'un bout à l'autre et qu'on aimerait mieux des études plus continues, mais on sait à peu près comment fonctionne le maréchal ferrant de village. Vous prenez par exemple le journal du sieur de Gouberville, qui est notre voisin ici ce soir, c'est pas très loin, eh bien vous voyez très bien comment monsieur de Gouberville peut utiliser les maréchaux ferrants pour entretenir sa cavalerie. Gouberville a deux types de cavalerie. Il a une cavalerie d'élevage, qui est une cavalerie sauvage, qui se développe dans les marais et dans les bois, dans lequel il va régulièrement avec des rodéos épiques, puiser quelques bêtes pour les mener à la foire et au marché. Et il a une autre cavalerie qui est sa cavalerie, en quelque sorte, professionnelle, agricole et personnelle, dans lequel, qui sont au manoir et dans lequel il puise ce qui fait le quotidien des usages du travail et le quotidien de ses relations avec la ville. Et le maréchal Ferrand est en quelque sorte l'intermédiaire entre ces différents univers. C'est là où on se regroupe pour discuter, pour échanger des nouvelles, à l'occasion d'un fer qui est tombé, qu'il faut remettre, etc. J'en passe, c'est un univers qu'il faudrait retrouver d'un peu plus près. Il y a un troisième personnage qui, dans cette catégorisation sociale, jouerait un rôle important, c'est évidemment le cocher. Le cocher est beaucoup moins connu que le cavalier parce que, évidemment, il est subalterne. Mais dans la théorie, et plus particulièrement dans un certain nombre d'ouvrages équestres, comme Le Garceau à la fin du XVIIe siècle, ou comme Le Dupré au milieu du XIXe, le cocher est presque présenté à l'égal de l'écuyer parce qu'il est celui qui doit être capable de dominer pleinement et de porter à leur mieux les utilisations des chevaux. Sur le cocher, il y a une très belle étude anglaise sur les cochers de fiacre parisiens au XIXe siècle, mais qui est une étude sociale. Je suis en train de chercher le nom, mais je le retrouverai, moi viendra. C'est une étude sociale très intéressante parce qu'en particulier, à l'occasion de la première exposition universelle, les cochers de fiacre parisiens se sont mis en grève et ont bloqué le démarrage de l'exposition, événement qui n'est plus dans la mémoire de nos Parisiens d'aujourd'hui qui réclament une exposition pour 2027, on est candidat à l'exposition prochaine. Bien, ceci alors mérite une conclusion temporaire, c'est que entre la campagne et la ville, il y a un système de circulation qui est mis au point progressivement avec l'essor de la route et avec l'essor des différents types de voitures et des différents types d'élevage, et il y a une transformation parallèle et articulée du système routier et des systèmes de transport. Ce besoin d'attelage, qui est inséparable d'une certaine découverte de la vitesse, est facile à comprendre si l'on voit ce qui se passe, et ça a été fait de façon tout à fait intéressante par Christophe Studoni dans son Histoire de la vitesse, pour ce qui se passe entre le chemin et la route. Le chemin, le trajet habituel, c'est la vitesse du pas, c'est-à-dire au maximum vous faites du 4 ou 5 km heure. Si vous marchez au pas avec des adjudants qui vous poussent, évidemment par derrière, vous pouvez accélérer un peu, mais la vitesse que vous pouvez accélérer, vous ne pouvez pas la maintenir longtemps. Donc la vraie vitesse au pas, elle est limitée. Elle est limitée et surtout, elle est totalement à la mesure d'un espace qui est mesuré, qui était celui qui a été évoqué aussi précédemment, qui est cet espace organique autour du village qui est fait de relations à la fois de travail, de finage, de territorialité et de revendication par rapport aux paroisses qui, dans toute l'Europe, divisent les terres agricoles. C'est, dans la Normandie de Gouberville, une journée au maximum de 20 ou 30 kilomètres à cheval que l'on peut faire par jour. Mais habituellement, le cavalier du Cotentin se contente de beaucoup moins que ça, ne fait que du trot et va très rarement au galop. Et c'est d'ailleurs au galop que lui arrivent les accidents qu'il note soigneusement dans son journal. Donc on peut concevoir que tout le monde n'a pas pratiqué la vitesse à laquelle nous ont habitué la vision des westerns. La vitesse des attelages est évidemment, elle, ralentie et freinée par la présence de la voiture et la présence, en quelque sorte, de la dépendance des arrêts qui sont nécessités par cet usage. Vous voyez très bien que quand on passe de la vitesse du pas à la vitesse de la voiture ou à la vitesse postale régulière, deux grandes transformations se sont jouées. La première, c'est la transformation de la régularité, c'est-à-dire que l'on peut à peu près tenir, quelle que soit la saison, la vitesse régulière et l'espace régulier parcouru en quelque sorte quotidiennement ou d'une manière hebdomadaire ou d'une autre manière. Donc le temps, les saisons sont dominées, et sont dominées par quoi ? Eh bien parce que la création routière a suivi la demande, et que dans les différents pays européens, en France plus particulièrement et assez tôt avec l'école des ponts et chaussées dès les années 1730, l'amélioration des chemins a été portée au premier plan de l'amélioration des conditions de développement. La vitesse comme l'accident sont des thèmes récurrents de la littérature de voyage, des récits des voyageurs comme des romans sur le voyage, qui sont pleins de véhicules embourbés, de véhicules arrêtés par l'orage parce qu'on ne peut plus franchir une rivière. Élargir l'horizon par la route et par la régularité routière, ça a été la grande conquête de l'hypomobilité et des attelages de chevaux. Ça a permis à des voyageurs de choisir leur véhicule, de choisir leur vitesse et, en quelque sorte, de disposer d'une plus grande liberté, d'une plus grande indépendance, avant, évidemment, que la voiture ne vienne donner d'autres éléments à cette transformation. Nous en arrivons donc à retrouver de plus près... Et j'ai jusqu'à quand, Vincent ?
On doit s'arrêter à
6 heures. Bon, ça va à peu près. Donc, on peut retrouver autrement les impératifs à l'œuvre dans cette transformation. Le problème de l'accord entre les chevaux et les véhicules qui n'a pas, je le répète, et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait retravailler beaucoup plus, était abandonné par la grande tradition équestre. Le problème ici est en quelque sorte de mieux comprendre la révolution des véhicules et de mieux comprendre les étapes techniques et leurs conséquences. La révolution des véhicules se caractérise par rapport aux principales conditions de la composition des véhicules. Le premier caractère, c'est la fragilité. La fragilité des véhicules en bois est absolument extraordinaire. Les bois sont cassants, ils sont difficiles à utiliser dans les montagnes, et pour fabriquer une roue au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, il faut au moins 3 espèces de bois. Donc, ce simple système d'entrée dans les techniques qui ignore la fragilité du fer, mais sa robustesse quand même par rapport à certains accidents qui arrivent au bois, est quelque chose de tout à fait important. Les résultats obtenus l'ont été par le rassemblement des métiers. Et ce rassemblement urbain, qui dépend d'une clientèle aristocratique le plus souvent, d'une clientèle de parlementaires, d'administrateurs, d'officiers de tout genre, est rassemblée en ville et soucieuse de cette régularité qui est obtenue par la route, mais qui ne peut être assurée et concentrée que par la pratique, évidemment, de véhicules qui tiennent le coup par suite de l'efficacité artisanale. On en trouve dans les campagnes, mais la spécialité et le succès, il est en ville. Troisièmement, il y a une accélération tardive de la mécanisation et de la transformation de ces espaces artisanaux au XIXe siècle. Elle a été bien étudiée à Bruxelles, elle est un peu moins bien connue en Angleterre, et elle n'est pas très bien connue, sauf par les études de muséographie ou les études des conservateurs, comme Jean-Louis Libourel dont j'ai cité le travail, pour la France. Ce qui est intéressant ici, c'est le passage dans les grandes capitales culturelles de multiples ateliers dispersés à l'usine. Et c'est au XIXe siècle qu'il faudrait consacrer de nouvelles études que la transformation s'est faite. Pour comprendre ce qu'est cette transformation, je prendrai deux exemples. Le premier, c'est vers les années 1660, le journal de voyage d'un précepteur janséniste, d'un prêtre, qui va accompagner son élève qui part combattre les Turcs aux frontières de l'Europe. Ça n'a rien de très intéressant. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Mais c'est la rencontre de deux civilisations équestres. Le jeune gentilhomme qui marche vers Vienne et qui va aller en Hongrie va rencontrer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière qui sépare encore la société cavalière et la société à écuyer. Alors ce journal de voyage est un journal au départ touristique. Après, il a un petit épisode militaire qui s'arrête assez vite. Il entraîne 10 à 50 personnes selon la difficulté des voyages. Donc vous voyez déjà ce que ça représente. Ça représente deux ou trois voitures plus les chevaux d'accompagnement. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et pendant ce déplacement vers l'Est, Monsieur Charles Lemestre, l'auteur du voyage, et son jeune élève utilisent tous les véhicules que vous pouvez imaginer. Depuis le carrosse, surnommé ainsi et décrit ainsi, qui est la voiture de transport de base de la société parisienne de la seconde moitié du XVIIe, c'est une voiture déjà fermée. Il y a un certain luxe, même s'il n'y a pas ce qui constitueront les avantages des grandes productions esthétiques et artistiques de la fin du XVIIIe siècle, mais c'est un véhicule qui est déjà sur des ressorts et qui fait l'admiration des populations qui le voient passer. Et l'un des traits de cette admiration, c'est que les aristocrates autrichiens ou hongrois veulent acheter les véhicules pour les conserver. Ce qui veut dire que Paris a une certaine avance dans le monde occidental, mais cette avance ne résiste pas à toutes les difficultés des routes, et le récit de Charles Lemestre est le récit de toute une série d'accidents qui interviennent, qui ne sont pas pour les voyageurs pittoresques, qui sont plutôt embêtants, plutôt ennuyeux. Il faut à chaque fois trouver la solution. C'est tout à fait fascinant de suivre comment fonctionne cet univers qui se dégrade de l'ouest à l'est et qui se dégrade aussi en altitude, puisque chaque fois que vous avez à franchir une chaîne de montagnes, vous tombez dans des difficultés accrues. Et donc, on peut retenir deux caractères principaux. La première, c'est qu'à cette époque-là, le vocabulaire qui désigne les véhicules est assez peu étendu. Quelques mots: carrosse, voiture, chariot, calèche, équipage. C'est pas beaucoup, c'est moins de 10 termes qui désignent toute la capacité de décrire la réalité équestre banale. Le deuxième trait, déjà avancé, c'est le progrès technique occidental français et le progrès des investissements routiers dans les parties occidentales de l'Europe. Cela fait coïncider deux mondes équestres, deux types de pratiques, deux types de sellerie, deux goûts dans les carrosseries, où la carrosserie française devient un modèle apprécié, recherché, mais extrêmement coûteux. Et Monsieur de Brissac, le patron de Charles Lemestre, va renvoyer son carrosse, donc vous voyez, c'est un objet auquel on tient et on le renvoie, alors qu'il passe en Italie et qu'il va utiliser les véhicules locaux. Avec ce texte très, très, très vivant, à suivre, à lire, on a un témoignage sur un état de l'attelage et surtout sur la manière dont il influence les personnes et comment il y a une évolution qui est lancée dès la fin du XVIIe siècle entre l'Europe avec des concurrences. On voit les aristocraties viennoises comme les aristocraties italiennes qui sont à la recherche des améliorations. Ces améliorations vont intervenir, je les ai soulignées sur les principales, mais on peut les accompagner de multiples améliorations du côté des conforts, du côté de la recherche des tapisseries, du côté des vitres qui se soulèvent, du côté des marchepieds qui permettent de mieux accéder aux véhicules. C'est un univers très compliqué qui se met en place et qui se développe. Pour le découvrir, vous avez un deuxième grand témoignage qui est valable pour la fin du XVIIIe siècle. Ce sont les voyages de Casanova. Les mémoires de Casanova nous ont noté toutes les circonstances. C'était un fou de voyage. Il n'a cessé pendant près de 40 ans, de 1734 à 1797, à parcourir l'Europe en voiture et très peu à cheval. Il louait ou il achetait des voitures. Casanova a fait, on l'a calculé, 65 000 kilomètres dans ses voyages à travers l'Europe, ce qui est quand même un test opératoire quant à la manière dont il rencontre des différents usages et des différents types de véhicules qu'on rencontre. Alors, différents usages, Casanova utilise aussi bien l'achat des véhicules que leur location. Ça se partage à peu près moitié par moitié, et à certaines périodes, il est plus partisan de l'achat du véhicule que de la location. Dans l'achat du véhicule, on voit apparaître, non pas 4 ou 5 termes, mais une bonne vingtaine de termes qui désignent les différents types de véhicules. On voit apparaître à côté des carrosses les berlines, les calèches, les coupés, les voitures anglaises qui sont parfois désignées calèche anglaise, calèche ceci, calèche cela, les diligences. Casanova affectionne les termes anglais. Là, il était tombé très amoureux d'un flying stagecoach qu'il s'est acharné à conserver en dépit des accidents. Il l'a entretenu. Donc il y a toute cette référence constante, les coupés à l'italienne, les chaises à la britannique, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui caractérise un monde qui s'est transformé et qui s'est transformé sous l'action du développement des grandes capitales culturelles de l'Europe occidentale, Londres, Paris, Bruxelles, un peu moins les autres grandes villes. Alors cette diversité des véhicules peut correspondre à des diversités d'usages, mais peut correspondre aussi, parce qu'il y en a qui sont plus légères que d'autres, mais ce n'est pas facile de voir exactement à quoi ça correspond. Il faut à chaque fois se demander si on a affaire à un vrai coupé à l'anglaise ou à un coupé français transformé par un constructeur anglais ou inversement. L'anglaise de Casanova, là, le Flying Stagecoach, il l'a quand même gardé pendant plus de 2400 km des comtés. Donc c'est quand même formidable de voir qu'il s'est attaché comme ça à un de ces modèles. Et on sait, ça a été identifié par les spécialistes, qu'elle avait été produite par un carrossier londonien qui s'appelait Richard Gray et qu'il était arrivé sur le marché européen à travers toute une série d'étapes pour aboutir à entretenir les capacités de mobilité de notre aventurier et en même temps tous ses intérêts intellectuels et autres. Donc vous êtes en face là d'une étape technique extrêmement importante où l'on a affaire à un modèle de véhicule qui est facile à adapter aux différentes conditions, où les essieux peuvent maintenant être en métal, donc plus résistants, et l'ensemble du véhicule résiste mieux à l'usure et à la casse. On a inventé, je vous l'ai dit, les ressorts sur essieux qui sont qui réduisent non seulement la fatigue, mais qui augmentent la force du véhicule et facilitent le tirage. Autrement dit, progressivement, on entre dans un domaine de la victoire technique qui apparaît lié à l'ingéniosité utilitaire, qui apparaît lié au développement du progrès par l'échange des voyages. Et Sébastien Mercier, qui est un dénonciateur du véhicule aristocratique, qui n'aime pas les voitures qui roulent dans Paris parce qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles sont pour le piéton une source en quelque sorte d'accident, Sébastien Mercier reconnaît que la douceur et la facilité des nouveaux véhicules, rouler en douceur, est quelque chose qui est un acquis en quelque sorte des lumières maternelles adaptées à la novation des routes et à la novation des, sans doute aussi, des besoins. Voilà en gros ce que je voulais retenir sur cette deuxième étape de la transformation. Et pour conclure, je me tournerai en sollicitant les jeunes et les moins jeunes à encourager en quelque sorte ce qui pourrait être une histoire de la production et de la consommation en fonction des usages sociaux. Le milieu des producteurs de véhicules, comme le milieu des fabricants, comme le milieu de des techniciens qui les commandent, est un milieu extrêmement hétérogène. Quand on les regarde de plus près, entre principalement le XVIIe et le XVIIIe siècle, on voit que ce sont des personnages qui sont capables d'entretenir des relations régulières avec les espaces de l'élevage. C'est un phénomène, je crois, extrêmement important de découvrir que ces principaux acteurs de la transformation des habitudes matérielles se tournent vers les études ou les régions où l'on produit évidemment les chevaux. Au XIXe siècle, l'industrie se mécanise, les entreprises se hiérarchisent, et à l'intérieur de ce monde industriel, à Bruxelles, à Paris comme à Londres, les entreprises de transport deviennent des lieux de recherche et d'interrogation, avec tout un personnel du côté de la médecine hippiatrique comme du côté de l'entretien des véhicules et de leur fabrication. Donc c'est tout un domaine de recherche qui est là mis en place avec une traduction utile. Alors, à l'intérieur de cette traduction, toute une littérature peut nous éclairer. Elle relève de cette tradition des arts et métiers qu'a lancé avant l'encyclopédie la description des arts de l'Académie des sciences, et où se fait entendre un spécialiste des arts et métiers qui est Jacob André Roubaud. Il a publié un ouvrage absolument essentiel et il a écrit pour l'encyclopédie d'Alembert et Diderot une bonne cinquantaine d'articles sur les mêmes sujets, donc c'est, ou plutôt on l'a repris de ses écrits, sur les mêmes sujets, les articles. Alors, ce que nous livre Roubaud, c'est l'organisation d'un milieu avec un apport technique composite dans lequel les différents acteurs livrent à chaque fois leurs éléments matériels. Alors au départ, vous avez les charrons. Les charrons qui peuvent être grossiers, s'ils fabriquent des roues et des trains de véhicules pour les véhicules de transport, ou qui peuvent être supérieurs, d'un niveau supérieur, s'ils fabriquent ce qui concerne les carrosses et les véhicules pour voyageurs. Le charron, donc, fabrique les roues, fabrique les trains, fabrique les essieux et prépare le véhicule avec ses suspensions à celui qui va fabriquer ce que vous connaissez tous et ce que l'on voit, qui est la caisse. La caisse, c'est ce qui accueille les voyageurs ou les marchandises. Le train, en quelque sorte, du véhicule. Donc, le travail du charron est complété par celui des menuisiers, mais celui des menuisiers ne peut pas se faire sans l'appel à des corporations qui ne relèvent pas du bois, mais qui relèvent du fer. Pour mettre sa caisse sur les roues, le train et les essieux, il faut des ressorts et des soupentes. Les menuisiers ou les charrons vont les demander à des serruriers ou à des bourreliers. Nous en sommes déjà à la cinquième corporation qui est mise en cause dans la fabrication des véhicules, ce qui n'est pas terminé. Les véhicules bruts ne sont pas du goût de la clientèle. Pour les voitures postales et pour les voitures de la poste qui seront sur des principes d'une esthétique plus proche de la recherche du confort et de la facilité que de la décoration esthétique et distinctive, avant, la caisse n'est pas valable si elle n'est pas accompagnée d'un décor qui va correspondre à la signification sociale et distinguer dans l'univers urbain le possesseur. Ce qui fait que plus le véhicule coûte cher, plus il a été confié à des décors habiles. Et plus les décors habiles ont été aptes à faire quelquefois appel aux plus grands peintres du temps. Oudry et Watteau ont peint des panneaux de carrosses. Le dernier carrosse de la cour de Louis XVI qui a été étudié par le spécialiste de la porte de carrosse allemande, qui est M. Wackernagel, qui a écrit un livre de 800 pages sur une porte, hein, est persuadé que c'est un des plus grands artistes de l'Académie de peinture du moment. Alors nous en sommes là au sixième degré de la... Donc les bourreliers, vous avez alors à partir de ce moment-là intervention d'un autre groupe qui devient essentiel à partir de la seconde moitié du XVIIIe, ce sont les celliers carrossiers. Ceux-là fabriquent en principe tout ce qui termine le véhicule. Et ils le mettent en vente quand ils ont commandé à l'ensemble corporatif les différents éléments de cette composition. Alors charron carrossier, s'empare progressivement du métier, les celliers les accompagnent, et ce phénomène est un des phénomènes économiques les plus intéressants, puisqu'il est celui qui inspire au livre 14 du Capital de Karl Marx ce que l'on appelle la concentration économique des métiers. Et il décrit ça avec un talent et évidemment un autre type de regard que celui que j'ai suivi. Bien, tous ces métiers attendent leurs historiens. Il n'y a rien là-dessus que des approches relativement superficielles sur les différents types d'artisans qui ont fait le succès, en quelque sorte, de ces différents usages. Alors, bien sûr, je n'ose passer à la sociologie de la vente, parce que là encore, à part quelques inventaires aristocratiques où les auteurs de l'étude ont remarqué l'importance du coût des chevaux et des attelages, il n'existe pratiquement rien, sauf une étude faite à partir des petites annonces, qui est un modèle en quelque sorte à suivre, qui est cité dans le passage que j'ai consacré au métier, et qui enregistre alors les deux modèles d'évolution que j'ai suivis avec vous. Premièrement, l'évolution technologique, et deuxièmement, une évolution sociale. C'est-à-dire que, à travers les petites annonces, vous avez la diversification des véhicules et des chevaux, mais en même temps, vous avez la diversification de l'offre des clients et des différents types de clientèle qui pourraient être reconstitutives de ce qui s'est passé dans les différentes capitales européennes. On pourrait continuer encore pendant pas mal de temps, mais je crois que je vais m'arrêter là en répondant à vos questions. Si vous voulez, je vous cite Karl Marx, hein, si vous ne me faites pas confiance. Un carrosse fut le produit collectif des travaux d'un grand nombre d'artisans indépendants les uns des autres, tels que charron, sellier, tailleur, serrurier, ceinturier, tourneur, passementier, vitrier, peintre, vernisseur, doreur, carrossier, etc., etc. Et de cette collaboration et de cette coexistence est née la division économique du travail. C'est peut-être intéressant quand même à noter. À côté des épingles d'Adam Smith, qui sont toujours le modèle de cette division du travail, ben je vous propose le marchand de la voiture. Voilà. Bon.